Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ, l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut, puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Dieu qui ne change point. Dans des termes théologiques, on appelle ça l'immutabilité de Dieu. Il s'agit d'un des attributs de Dieu qui représente son caractère. Bien sûr, Dieu a plusieurs attributs, c'est-à-dire les caractéristiques qui peuvent être attribuées à Dieu seul. Il est saint. Il est juste, il est amour, ce sont des attributs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons considérer ensemble cet attribut de Dieu qui décrit Dieu tel qu'il se décrit lui-même. Et cela veut dire qu'il ne change point. Dieu lui-même, à travers les Écritures, affirme être immutable, c'est-à-dire une qualité de ce qui est immuable ou bien qui ne peut pas changer. Et donc, son immutabilité traverse tous ses attributs. Il est immuable dans sa justice. Il est immuable dans sa sainteté. Il est immuable dans son amour. Il est immuable dans tout ce qui le concerne en tant que Dieu. Et un verset clé pour débuter se trouve dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament. Et le chapitre 3 et le verset 6, où Dieu lui-même dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il a décrit cela, le concernant, en ce qui concerne les enfants de Jacob, ceux qu'il avait choisis pour sa gloire dans l'Ancien Testament. Et il leur rappelle que s'ils existent encore, c'est à cause de sa miséricorde. C'est tout. Ce n'est pas à cause des mérites en eux en tant que tels, parce qu'il n'y avait rien de bon en eux. Mais s'il les avait appelés, s'il les avait préservés à travers leur histoire, c'est parce qu'il est l'Éternel, dit-il, et il ne change pas. Et nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, pas mieux que Israël naturel. Si nous sommes à Christ, c'est parce que Dieu lui-même, depuis l'éternité, nous a choisis dans sa grâce. Sa grâce aussi est immuable. Sa grâce ne change pas parce que Dieu ne change pas. Alors, s'il nous a appelés, il nous a sauvés par le sang de Christ, c'est parce qu'il est fidèle à lui-même. Voilà encore un attribut, la fidélité de Dieu. Et il ne change pas dans cette fidélité. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, le chapitre 1 et le verset 17, nous lisons ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Voilà encore une autre manière de définir l'immutabilité de Dieu, le fait qu'il ne change pas dans sa grâce, c'est décrit ici comme excellente et comme le don parfait descendant d'en haut. Le salut ne provient pas de l'homme, ça vient de Dieu qui est en haut. Ici, il est décrit comme le Père des Lumières, c'est-à-dire lui qui est la lumière, encore, qui ne change pas. Et il fait briller cette lumière, ça représente sa vérité, ça représente sa sainteté, ça représente la connaissance de Christ. Il fait briller cette lumière dans les cœurs de ceux qu'il a choisis depuis l'éternité. Cette lumière, cette grâce, cette œuvre du salut est selon le caractère de Dieu qui ne change point et en qui et ni changement, ni ombre de variation. Parfois, nous doutons de nous-mêmes, parce que nous voyons
ce que nous sommes à la lumière de ce que Dieu est dans sa sainteté. Nous pouvons peut-être nous douter nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas douter de ce qui concerne Dieu, parce que tout est clairement représenté dans son Écriture, dans sa parole. Aussi, d'autres passages qu'on peut citer en ce qui concerne l'immutabilité de Dieu. Et ce sont des points que Dieu lui-même affirme dans Psaume 102, par exemple. Le verset 26, nous lisons, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. » Imaginons depuis la création du monde, combien d'époques ont passé, combien de générations des êtres humains et les choses de cette terre qui ne sont plus. Ils périront, mais tu subsisteras. C'est écrit, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, dans le verset 28 de Psaume 102, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voilà une bonne définition de l'immutabilité de Dieu, le fait qu'il ne change point. Tu restes le même et tes années ne finiront point. Ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu a créé a un début et a une fin, mais non pas Dieu. Même les cieux et la terre sont dans leur être muable, c'est-à-dire on voit des changements. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 10 dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Regardez autour de vous, regardez en haut, regardez sur la terre, ce sont des choses qui doivent passer. Mais celui qui les a créées ne passera point, il est pour toujours, parce que c'est son caractère, le changement est le propre du créé, de ce que Dieu a créé, même les anges. Dans Jude, chapitre 6, nous lisons qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, même les anges ont été créés, et étant des êtres créés, ils ont changé leur première demeure, et maintenant sont devenus des êtres condamnés, selon le plan de Dieu. Et d'autres anges, Dieu les a gardés, préservés, ce sont des anges élus. Mais tout cela, c'est selon le décret d'un Dieu qui ne change point. Donc, les cieux et la terre changeront, les anges, et certainement les hommes. C'est pourquoi, dès la fondation du monde, à la création, Satan s'est approché d'Ève pour la tenter, sous forme du serpent. Et c'est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous voyons dès la chute qu'il y a eu un changement en ce qui concerne les hommes. Et depuis là, nous savons que les hommes sont comme le vent à cause de leur nature déchue. ils ne peuvent plus rester fidèles à la volonté de Dieu ou à sa parole. C'est pourquoi c'est nécessaire qu'un Dieu immuable intervienne et qu'il fasse son salut, qui ne change point, parce que laissé à l'homme, l'homme ne pouvait pas tenir. Alors tout cela, c'est pour voir le contraste entre ce que Dieu a créé et le caractère de Dieu lui-même, qui ne change point. Donc, dans tout ce qui concerne l'immutabilité de Dieu, nous voyons qu'il est immuable dans sa nature, premièrement, et son essence, cela veut dire son être, puisqu'il est l'Éternel. C'est pourquoi ce nom Éternel est donné à Dieu. C'est parce qu'il ne change pas dans le temps. En ce qui concerne Dieu le Père, c'est aussi attribué à Dieu le Fils, parce que il y a la divinité qui est décrite dans les Écritures, et il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. Donc ce qui s'applique au Père s'applique aussi au Fils et au Saint-Esprit. Les trois sont un. C'est pourquoi nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13 et le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque l'Esprit de Dieu nous donne cette foi en Christ et nous nous reposons en lui par sa grâce, nous nous reposons en celui qui ne change point. Tout ce qu'il était, il est et il sera. Et pour cela, notre foi est sûre en Christ par la grâce de Dieu. Cette description du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est vraie parce qu'il est infini. Et il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omniprésent. Il est partout. En même temps, il ne change pas avec le passage de temps, ni dans l'espace. Et cette description aussi est vraie parce qu'il est parfait. Il ne change pas dans son être. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur cette terre pour rendre l'obéissance à son Père qui est nécessaire pour le salut, la justice de Dieu à l'égard de ce que Dieu a ordonné au salut, c'est nécessaire que le Seigneur soit parfait, qu'il ne change pas dans son être. C'est ça qui a assuré sa réussite en ce qui concerne le salut. Il ne pouvait pas faire faille. Donc le fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons nous fier à sa parole. Nous pouvons nous fier à son œuvre si Dieu nous donne cette grâce de le connaître, parce qu'il ne peut changer. Il ne peut croître, ni décroître. Il ne peut ni se développer, ni évoluer. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous voyons cela dans sa nature et son essence, mais aussi dans ses attributs. Il est toujours le même en pouvoir. Il ne peut être ni plus fort, ni moins fort. Cela me rassure, parce que pour les êtres humains, plus nous vieillissons, plus nous devenons faible, mais Dieu est celui qui ne change point. Et comme nous avons lu dans Psaume 102 et le verset 26, « Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. » Ah, gloire à son nom que c'est ainsi, qu'avec le passage de temps, il ne peut être ni plus fort ni moins fort dans son pouvoir. Et aussi dans sa connaissance. Il ne peut connaître plus, ni mieux, ni moins. Il a ordonné toutes choses selon la connaissance de son être. Et tout ce qui se passe selon ce que Dieu lui-même connaissait d'avance. Et il connaît d'avance parce qu'il a décrété d'avance tout ce qui devait se passer. Donc dans son pouvoir et sa connaissance, mais aussi dans sa bonté. Heureusement qu'il ne change point dans sa bonté. Sa grâce et sa miséricorde sont immuables. Nous ne devons pas imaginer que nous sommes aujourd'hui bénis de Dieu à cause de quoi que ce soit en nous. Non, C'est uniquement à cause de sa bonté, à cause de sa grâce, de sa miséricorde envers des êtres déchus et dépravés qui ne méritent rien que sa condamnation. Pourtant, dans sa volonté éternelle, il a voulu faire grâce et bonté et miséricorde envers des pécheurs tels que nous sommes, des pécheurs que lui-même il a choisis. Et notre confiance, c'est que ce qu'il a proposé faire, il fait. Donc, il ne va pas dire aujourd'hui, il nous aime, et puis demain, ah, voilà, il doit nous condamner. Dans sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, il est toujours de même. Et surtout dans sa sainteté, Dieu ne met pas de côté sa sainteté pour sauver le pécheur. Non, sa sainteté est telle qu'elle était depuis l'éternité, pour toujours. Donc comment est-ce que Dieu peut alors rester juste et justifier des pécheurs qui sont condamnables? La solution est uniquement dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour satisfaire à la justice de Dieu et répondre à sa sainteté comme le représentant de ce peuple que le Père lui a donné depuis l'éternité. Et c'est ainsi que Dieu est fidèle envers son Fils, à cause de son Fils, il est fidèle pour nous pardonner et de nous justifier de toute iniquité, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé la dette. Donc, dans ses attributs, Dieu est immuable, comme dans sa nature et son essence. Mais, comme nous avons déjà vu aussi, Dieu est immuable dans ses décrets. Cela veut dire tout ce qu'il a ordonné. Et là, il y a beaucoup de versets de la Bible qu'on pouvait citer. Mais commençons par Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17 et 18. C'est écrit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, voilà le mot, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alors, c'est clair que Dieu lui-même ne change point, mais pour montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, ça c'est les élus de Dieu, que depuis l'éternité, il a ordonné au salut. Dieu lui-même prend serment, il intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, quelles sont les deux choses? Premièrement, le fait qu'il est impossible que Dieu mente. Donc voilà pourquoi nous pouvons nous confier à sa parole en ce qui concerne le salut, parce qu'il ne peut pas mentir. Mais deuxièmement, c'est que en cela nous trouvions un puissant encouragement dans le fait que Dieu lui-même a pris serment. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Si Dieu changeait, on ne pouvait pas savoir de jour en jour quelle serait alors son attitude. Mais le fait qu'il ne change point, c'est ça qui nous donne ce puissant encouragement de nous réfugier, de chercher notre refuge en Christ et de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Quand c'est écrit proposé, cela veut dire décrété. Alors vous voyez comment Dieu, dans ses décrets, est un Dieu en qui nous pouvons et nous devons nous confier par la grâce de Dieu. Dans Psaume 33, le verset 11, nous lisons, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Nous sommes en train de lire une Bible qui existe depuis des milliers d'années, et nous pouvons nous confier à cette parole écrite et préservée parce que ça représente un Dieu qui ne change point, et que tout ce qui est écrit dans cette écriture est pour toujours. les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Je suis confiant qu'arrivé au ciel, je ne vais pas trouver un Dieu différent que celui qui est décrit dans les Écritures, parce que celui qui est écrit dans les Écritures est l'auteur de ces Écritures, pas son esprit. Alors c'est certain qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Dans Proverbes chapitre 19 et le verset 21, nous lisons, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Voilà encore, dans la créature, il y a beaucoup de projets, mais c'est écrit le dessein, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Heureusement, c'est comme ça, parce que nous commençons notre journée avec beaucoup de pensées, beaucoup de projets. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Aussi dans Ésaïe, chapitre 14, versets 24 et 27, nous lisons, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Combien ça c'est différent du Dieu qui est représenté aujourd'hui dans la plupart du monde, que c'est un Dieu qui veut bien faire sa volonté, mais hélas, il ne peut rien faire si l'homme ne lui donne pas la permission. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est un Dieu qui existe seulement dans l'imagination dépravée des hommes. Non, écoutons la parole. Dans Ésaïe 14, le verset 27, « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Combien ce Dieu-ci est différent que ce que les gens prétendent adorer aujourd'hui, qui disent que même si Dieu veut faire quelque chose, alors l'homme peut l'empêcher. Ça, c'est un Dieu qui n'existe pas, sauf dans l'esprit perverti des hommes. Alors, le Dieu de la Bible, il est l'Éternel des armées, et ce qu'il a juré, il fait. Tout ce qu'il décide arrivera. Ce qu'il a résolu s'accomplira. Dans Ésaïe 46, le verset 10, nous lisons, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » C'est Dieu ici qui parle. « Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Pas une partie, mais toute ma volonté. Et là, quand nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament, nous voyons clairement décrit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, du verset 7 à 11. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Je ne pouvais pas connaître ce que je suis en train de vous annoncez maintenant si ce n'était qu'il a plu à Dieu de révéler en moi cette volonté, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. Donc vous avez là sa volonté, selon son dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Et tout cela est vrai parce que Dieu est immuable. Il ne change point. Tout ce qu'il a décidé depuis l'éternité, selon sa volonté et selon le bienveillant dessein qu'il avait formé, noté en lui-même, pour le mettre à exécution exactement comme il a résolu. Il y a beaucoup qui pensent que Dieu propose, mais hélas, les choses n'arrivent pas comme il propose. Tel n'est pas le Dieu de la Bible. C'est écrit pour mettre à exécution tout ce qu'il a résolu dans le temps. C'est pourquoi nous pouvons avoir cette assurance que quelle que soit notre histoire, dans nos vies. Peut-être nous ne savons pas ce qui va se passer même une seconde de maintenant, mais en regardant en arrière, nous pouvons voir ce chemin que Dieu lui-même a tracé pour nous, et nous pouvons dire que tout s'est passé exactement comme il a voulu, parce que Dieu ne change point. Alors, le plan de Dieu et ses décrets sont parfaits, puisqu'il est infiniment sage. Il ne peut y avoir d'erreur dans la conception de ce qu'il a arrêté faire. Heureusement, le plan de Dieu est parfait aussi en puissance. Il ne peut y avoir d'échec dans l'accomplissement de son plan. Et comme nous avons vu, l'immutabilité de Dieu est manifestée surtout dans son amour pour ses élus. Voilà un point qui me réconforte. Le fait que rien ne peut changer l'amour de Dieu envers ceux qu'il a arrêté sauver et ordonné au salut. Son amour ne change point. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter ce que les gens nous disent que, oui, Dieu vous aime, mais si vous ne croyez pas en son Fils, alors il doit vous condamner. Personne n'est condamné sur qui Dieu a mis son amour. Le problème, c'est de savoir que il n'a pas mis son amour sur tous les êtres humains. Ça, c'est un mensonge que les gens croient aujourd'hui. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Vous voyez, Dieu lui-même fait cette distinction. S'il aime des pécheurs, ce n'est pas à cause de quelque chose en eux, mais c'est selon sa grâce. Et s'il haït des pécheurs, cette haine des justes, puisque ces pécheurs-là ne méritent pas son amour. Mais ceux qui l'aiment, je peux vous rassurer, selon la Bible, tel que nous voyons ici dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. » Il s'agit là de la mort et la résurrection de Christ. S'il est mort pour nos offenses, donc nous étions morts avec lui. S'il est ressuscité à cause de notre justification, là à la croix, donc nous sommes ressuscités en lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu, et ça ne change point. Oh, quelle étude nous venons de traverser concernant cet attribut de Dieu et son immutabilité. Cela doit nous donner vraiment une vue exaltée de Dieu tel qu'il est dans les Écritures. Ça doit aussi nous donner une compréhension élevée des Saintes Écritures, parce que tout ce qui est écrit là, c'est pour le bien des enfants de Dieu, et je rends grâce à Dieu pour ces Écritures. Mais aussi, ça doit nous donner une appréciation plus intelligente de l'œuvre respective de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, et nous faire abaisser dans nos cœurs pour adorer un tel Dieu. Je dois vous dire qu'un Dieu qui n'est pas immuable, un Dieu qui peut aimer un jour et puis le prochain jour haïr un pécheur, n'est pas un Dieu qui est digne d'adoration, ni un Dieu qui peut changer selon les plaisirs de ses créatures, ou bien empêcher d'agir puisque ses créatures ne veulent pas qu'il agisse. Un tel Dieu n'est pas digne d'adoration. Seul ce Dieu-ci que nous venons de voir à travers les Écritures est digne d'adoration. Et pour cela, nous lui rendons grâce et gloire en toutes choses. Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'Internet www.shreve.com.
G-R-A-C-E.org.